Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à la troisième étude concernant donc tout ce qui est de Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et surtout pour développer tout ce qui concerne notre Sauveur et Seigneur. Oui, Christ est éternel. C'est merveilleux de savoir cela. Avant de commencer notre étude, je dois vous avouer, parce qu'il faut être honnête, que je peux une fois me tromper dans une explication. Car, ayant fait que le strict minimum de l'école primaire, dû à une enfance horrible, il serait présomptueux de vous dire que j'ai étudié l'hébreu, le grec, l'araméen, le latin. Non. C'est impossible, vous le comprenez bien. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas sérieusement, soigneusement, d'une façon profonde, étudié ce que nous appelons le Saint-Livre, la Sainte Bible. Et j'ai quand même écrit, durant mon mariage, quelque chose comme 4000 manuscrits que j'essaye maintenant depuis environ 2 ans et demi, 3 ans d'essayer de les mettre sur CD, bien sûr en transformant bien des choses, puisque le parler est pas toujours pareil. Donc c'est un grand travail, et si une fois je me trompe, je vous demande de bien vouloir me pardonner. Mais je demande toujours, avant de commencer, que le Saint-Esprit me dirige, m'inspire et au besoin me corrige. Chers amis, le nom français que nous donnons à l'être suprême que nous les chrétiens appelons notre Sauveur et Seigneur et aussi notre Père et Dieu, ce nom français ne révèle rien sur l'essence divine comme le font les noms hébreux de Dieu. Il révèle pourtant le désir ardent du cœur humain. Le nom Dieu dérive de la racine française qui signifie « appeler ». Ce nom implique que l'homme, dans son point extrême, appelle celui qui est le Tout-Puissant. Le nom Dieu manifeste actuellement le vide et la faiblesse de l'humanité. À la différence du nom français, les noms hébreux pour Dieu révèle sa nature et ses attributs. Parmi ces mots hébreux, il y a 4 qui sont éminents dans l'Ancien Testament. Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahvé l'Éternel, appelé aussi Jéhovah, le Dieu, Dieu le Père. Bien entendu, quand je dis Yahvé l'Éternel, les Juifs orthodoxes, très fervents, n'ont pas le droit de prononcer ce mot. Il s'écrit donc absolument sans les voyelles. Donc, je pense que nous, les chrétiens, avec beaucoup de respect, nous pouvons le prononcer sans risquer d'être excommuniés, mais toujours avec un très grand respect. Trois de ces noms hébreux sont au pluriel et ainsi donc indiquent la triunité de Dieu. Dans l'hébreu, le nom apparaît en trois nombres singuliers, Dieu, et au pluriel, donc le pluriel indique trois. Le premier de ces noms que nous allons considérer est Elohim. Il est au pluriel et signifie que Dieu est un dans les sens, mais qu'il est manifeste en triple distinction. Nous connaissons cette triple distinction de la comparaison de l'Écriture sainte, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le deuxième, Adonai, signifie le Seigneur souverain ou le Maître, et il est aussi le nom au pluriel, Adonai. Et le troisième, c'est El Shaddai. Il apparaît quelquefois dans l'Ancien Testament et dans beaucoup de ses apparitions est combiné avec un autre titre et traduit par exemple comme le Dieu Tout-Puissant. Quand Abraham avait 99 ans, l'Éternel, Jéhovah, lui est apparu et a dit « Je suis le Tout-Puissant, je suis El Shaddai, Dieu ». Marche devant ma face et sois intègre. Genèse chapitre 17, verset 1. Le quatrième de ces noms importants de Dieu est Yahvé l'Éternel, qui normalement ne peut être prononcé par des juifs orthodoxes. Alors, on peut dire Jéhovah, qui exprime l'essence éternelle de Dieu. Il dérive du verbe hébreu « être ». Dieu s'est manifesté ainsi à Moïse et il s'est tenu dans la crainte devant le buisson ardent. Là, Dieu lui a dit « Je suis ce que je suis, je suis celui qui est ». Cela suggère que Dieu existe toujours. Avec lui, il n'y a pas de passé ni de futur. Il existe toujours. Sans doute ce nom enseigne que Dieu est auto-existant, existe donc éternellement et il est immuable. Thomas Newbery, dans l'édition de la Bible pour les étudiants, interprète les paroles de Dieu à Moïse comme « Je continue à être et je serai ce que je continue à être et je serai ». Ici, il y a quatre titres hébreux pour Dieu qui attestent son essence éternelle et divinité. Regardez Colossiens chapitre 2 verset 9. Quand nous lisons de Elohim, Adonai, El Shaddai et Yahvé l'Éternel ou Jéhovah, nous lisons au sujet de la Sainte Trinité dans son essence et attributs, dans son unité et de sa triple unité. Avant d'abandonner cette matière relative à l'Éternelle Trinité, il est bon de prendre conscience du fait qu'il y a ceux qui n'acceptent pas la doctrine biblique de la Sainte Trinité. Bien sûr, ni athéistes, ni agnostiques ne le font, mais il y a d'autres qui croient en Dieu, mais qui refusent de reconnaître la Trinité. Il n'est pas possible d'énumérer tous, mais voici quelques-uns. Les Juifs malgré le témoignage des Écritures hébreuses, eh bien les Juifs nient la triple unité de Dieu. L'apôtre Jean a écrit « Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus de Père ou le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 22 et 23. Comment c'est vrai au sujet des Juifs qui nient que Jésus est le Christ, le Messie? Les témoins de Jéhovah, par exemple, celui qui nie la divinité de Christ, ils ont fait donc nier toute la Trinité. Le culte des témoins de Jéhovah enseigne que le Seigneur Jésus était la créature de Dieu, une très haute créature tout de même. Ils enseignent aussi qu'il a préexisté son incarnation. Ils nient la triunique divinité, par conséquent, ils nient la divinité de Christ et qu'il a été dans tous les sens le membre de la divinité. La parole de Dieu déclare que Christ est le ou la véritable personnification de la Sainte Trinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9. Les unitariens, ce culte-là enseigne, comme enseignent les Juifs, que la doctrine de la Trinité proclame trois dieux et non pas un seul. Ils enseignent que d'adorer Christ est de commettre l'idolâtrie, tout simplement. La doctrine unitarienne est tout simplement la forme moderne de l'hérésie d'Arius, qui a vécu au IVe siècle après Christ. Le groupe pentecôtiste Jesus Only, Jésus seulement, il faut comprendre que seulement un petit groupe de ceux qui se proclament appartenir au mouvement pentecôtiste ce genre, du présent, nie la doctrine de la Trinité. Ce groupe minoritaire, il faut le dire, est appelé, ou par adoption, ou par, on peut pas dire, par une sorte de surnom qui a peu d'importance, l'Église de Christ seulement. Ils disent que Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il est tous les trois. Dans leur doctrine, le Père n'est pas une personne, ni le Saint-Esprit. Cela enseigne-t-il sans seulement les aspects du Seigneur Jésus? La parole de Dieu dit que nous devons honorer le Fils comme nous honorons le Père. Saint Jean chapitre 5, verset 23. Cette doctrine qui n'est pas biblique, déshonore les deux, le Père et le Fils. Les Swedenborgianismes enseignent une fausse doctrine similaire. La grande importance de tourner de toute pareille hérésie et d'adhérer à la révélation de la Sainte Trinité qui est donnée dans la Sainte Bible est compréhensible quand nous réalisons que le plan divin de la rédemption de l'homme déchu dans son dessein, exécution et accomplissement repose donc sur Dieu dans sa Sainte Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant même que l'homme fût, et nous marquons généralement le commencement de temps à partir de la création de l'homme, il y avait certains desseins dans la divinité. Ils sont habituellement datés comme ayant lieu avant la fondation du monde. Considérons certains de ces desseins trinitaires. Premièrement, en ce qui concerne la création de l'homme, Dieu Elohim a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Genèse, chapitre 1, verset 26. Deuxièmement, en ce qui concerne la rédemption de l'homme, premièrement, nous avons le peuple qui a besoin de la rédemption. Béni soit Dieu, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et lui, Dieu, nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4, ainsi que 1er épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Deuxièmement, nous avons la méthode de la rédemption. Nous sommes rachetés, et cela par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Notez la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. Et notez aussi Apocalypse, chapitre 13, verset 8, ainsi que Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. Troisièmement, nous avons le résultat de la rédemption, la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, en Tite, chapitre 1, verset 2. Et troisièmement, le but de la rédemption. Il est évident que cette divine prédestination doit agir avec les desseins éternels dans la divinité. Ce que Dieu a prédestiné et ce qu'il avait comme intention de faire pour le racheter est très clair. Nous lisons ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et cela en Romains chapitre 8, verset 29. Il y a une autre transaction qui doit être déterminée dans les desseins éternels. Nous lisons « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, il leur dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Notez Saint Matthieu, chapitre 25, verset 34. Nous, les hommes limités, et je me considère comme tel, savons très peu de ce qui se passe à l'intérieur de la divinité, mais de cet aperçu des Saintes Écritures, nous comprenons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont conseillés ensemble en ce qui concerne la création, la rédemption et le royaume glorieux du Fils de l'homme. Nous sommes maintenant confrontés avec la question importante : qui va être l'exécuteur de ces divins desseins ? L'apôtre Jean raconte comme un fait historique que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Notez 1er épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 14. L'apôtre Paul, de même, témoigne que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Notez Romains chapitre 8, verset 3. Le même apôtre déclare que le Fils de Dieu a été envoyé précisément dans le temps prédéterminé par Dieu. Et notez Galates chapitre 4, verset 4. Notre Seigneur bénit lui-même, pendant son discours dans la chambre haute, a répété le fait qu'il a été envoyé par le Père. La grave question, la question de l'importance primordiale, confronte celui qui étudie la Bible. Est-ce que le Fils de Dieu, qui a été envoyé dans le monde pour exécuter les desseins éternels de la Sainte Trinité, est-ce qu'il est Jésus-Christ, le Jésus-Christ de l'histoire? Cette question peut être inverse. Est-ce que Jésus-Christ est l'Éternel, Fils de Dieu? Est-ce qu'il est, dans le sens absolu, divin? Il y a beaucoup de ceux qui se proclament être religieux, beaucoup qui proclament d'adorer Dieu et qui nient que Christ est éternel, qu'il est le Fils de Dieu dans le sens unique et qu'il est parfaitement Dieu. À part les athées et les agnostiques, nous pouvons mentionner quelques groupes et sectes tels que les Christadelphiens. Cette hérésie dit que Jésus n'est pas ce qu'enseigne la doctrine de la Trinité, qu'il était un homme, mais Dieu le Père habitait en lui. Cette hérésie, dans les formes différentes, caractérise les cultes modernes comme les Témoins de Jéhovah, la théosophie, etc. Trois questions concernant Jésus-Christ confrontent chaque esprit honnête. Est-il réellement le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est éternel dans sa nature? Possède-t-il les attributs de divinité? Il ne faut pas être surpris que les non-croyants discréditent l'éternelle filiation de Christ. Cette phase de la doctrine de Christ est niée par les théologues libéraux de même que par les cultes hérétiques. Sans doute, il peut y avoir des chrétiens mal informés qui ne comprennent pas ce que signifie la filiation éternelle de Christ, mais c'est regrettable qu'il y a un groupe minoritaire, qui affirme qu'ils appartiennent au Seigneur et qui aussi discréditent cette doctrine. Nous devons ainsi donc chercher dans les Saintes Écritures pour constater, pour découvrir la vérité. Il y a eu deux erreurs en ce qui concerne la filiation éternelle de Christ qui ont tracassé l'Église. La première consiste en ce que dans son humiliation, Christ n'était pas conscient de sa filiation avec Dieu jusqu'après son baptême. La seconde, que sur la croix, il a perdu conscience de sa filiation avec le Père et cela a intensifié ses souffrances. Examinons les nombreuses écritures de la manière inductive. Nous voulons dire par cela que quand Dieu, comme le Père, a performé certains actes dans, avec ou par son Fils, nous devons assumer que dans ce moment appartient, ou ce moment appartient donc là, la filiation du Père avec son Fils. Et donc, nous devons assumer que dans ce moment appartient la filiation du Père avec son Fils. Voyez-vous, nous avons là où nous avons sa filiation dans le passé avant la fondation du monde. Et notez Éphésiens chapitre 1 versets 3 et 4. Là, il est dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. Les verbes élire et bénir sont tous les deux dans le même temps, dans le passé. Dieu le Père a béni et a élu avant la fondation du monde. S'il l'a fait comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, alors en ce temps-là, le Seigneur Jésus devait être son Fils. La même conclusion est évidente de Saint Jean chapitre 17 verset 24. Nous avons la filiation à la création en Hébreu chapitre 1 verset 2. Là, il est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dans ce texte, on parle de Christ dans trois temps. Premièrement, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Cela, bien sûr, se réfère au présent. En second lieu, qu'il l'a établi héritier de toutes choses. C'est la référence pour le futur. Finalement, par lequel il a aussi créé le monde, dans le passé, par son Fils. Dieu a vraiment programmé les âges. Le Fils à travers lequel Dieu parle aujourd'hui est le Fils qui va hériter toutes choses parce que comme Fils, il a créé toutes choses. Alors nous avons sa filiation dans les temps de préincarnation. Notez Romains chapitre 8 verset 3. Dieu envoya son propre Fils dans la chair, semblable à celle du péché. Si Christ était le Fils dans le temps, quand il était envoyé, il devait être Fils avant qu'il était venu. De la même manière, en accord avec Romains chapitre 1, versets 1 et 3, l'évangile de Dieu en concernant son Fils était promis avant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Alors Christ devait être le Fils quand la promesse était faite. Voyez-vous, sa filiation pendant l'incarnation en Ésaïe chapitre 9 verset 6, Saint Jean chapitre 3 verset 16, premier épître de Saint Jean chapitre 4 verset 9 et 10, Romains chapitre 8 verset 3, Galates chapitre 4 verset 4. De ces nombreuses références, il est évident que quand Dieu a envoyé Christ dans le monde, il a envoyé comme son Fils. Sa filiation pendant la crucifixion, en Romains chapitre 8, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas également toutes choses avec lui? Christ a été sacrifié par son Père comme son propre Fils. Nous avons sa filiation pendant la résurrection. Notez Hébreux, chapitre 1, verset 5. C'est une citation du psaume, chapitre 2, verset 7. Là, il est dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Aujourd'hui. Donc, cela est appliqué à Christ quand il est devenu le premier ressuscité des morts. Notez Colossiens, chapitre 1, verset 18. Celui qui a été sacrifié comme le Fils de Dieu était ressuscité comme le Fils de Dieu. Il faudrait répéter cela. Nous avons donc sa filiation pendant la résurrection. Et là, vous pouvez noter Hébreux, chapitre 1, verset 5. Ceci est une citation également du psaume, chapitre 2, verset 7. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cela est appliqué à Christ quand il est devenu le premier ressuscité des morts. Notez Colossiens, chapitre 1, verset 18. Celui qui a été sacrifié comme le Fils de Dieu était ressuscité également comme le Fils de Dieu. Sa filiation a, on peut dire, aggravé, elle a gravé l'éternité. On peut bien dire cela. Notez Hébreux, chapitre 1, verset 8. Pour prouver cela, il est donc nécessaire seulement d'une seule portion de l'Écriture sainte. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Hébreux 1, verset 8, je répète, pour prouver cela, il est nécessaire seulement d'une seule portion de l'Écriture sainte. Là, Dieu, Yahvé l'Éternel, a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ayant établi dans nos esprits ce fait glorieux, doctrinal, que Christ a toujours existé et va toujours exister comme le Fils du Père, examinons maintenant certains faits concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la divinité de notre Seigneur. Dans la mesure que les Écritures saintes révèlent le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils éternel, nous devons être prêts à accepter qu'il est la divinité manifestée dans l'humanité, mais c'est mieux de ne rien assumer. Prouvons chaque proposition par l'inébranlable parole de Dieu. Il y a beaucoup de ceux qui croient dans la divinité ou dans la divine trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit et ceux qui croient en la préexistence divinité de Christ et qui ont des réserves d'accepter sa divinité après son incarnation. Ils deviennent confus, très confus par l'union de Christ, de divinité et de l'humanité. Ils ont donc pensé de la combinaison de ces deux natures comme étant des deux natures unies et chacune qui se complète et elle-même et chacune possède des qualités et des attributs qui lui appartiennent. Donc, la chrétienté libérale, aujourd'hui, elle accepte ce qui est nommé la théorie de kénosis. Cette théorie est présentée dans certaines formes, mais toutes ces formes nient carrément la divinité absolue de Jésus-Christ de Nazareth. En général, la théorie, c'est que le Seigneur Jésus, en devenant un homme, a soumis ses attributs personnels à Dieu, qu'il a dissimulé ses divins attributs et s'est soumis aux limitations qu'il a acceptées lui-même. Le mot « kénosis » est pris du texte grec des Philippiens, chapitre 2, verset 7. Il s'est fait sans renommée, c'est-à-dire il s'est dépouillé lui-même. Or, assuré que dans son incarnation, Christ s'est dépouillé lui-même de sa divine essence, est une hérésie. Ce sera plus vrai de dire que Christ, dans son incarnation, s'est dépouillé lui-même des conditions et positions qui ont toujours été les siens et a accepté à leur place les conditions et positions conséquentes de celui, tout simplement, d'un esclave. Il a été dit très véridiquement, Christ, sans cesser d'être ce qu'il était, c'est-à-dire Dieu, est devenu quelque chose qu'il n'a jamais été auparavant, c'est-à-dire un homme. Examiner la divinité personnelle de Christ, c'est réclamer une considération à ses propres déclarations dans le temps et à la démonstration des divins attributs par lui ici sur la terre. L'évidence de cela va prouver son éternelle divinité, parce que ce qu'il était dans le temps, il est également dans l'éternité. La divinité de notre Seigneur est supportée dans le Nouveau Testament, premièrement, par les noms par lesquels il est appelé, deuxièmement, par les attributs qu'il révèle, et troisièmement, par les accomplissements qui sont accrédités à lui et par lui. Ces noms, eh bien ici nous avons certains noms donnés à Jésus-Christ de Nazareth qui indiquent sa parfaite divinité, tels que Emmanuel. Notez Ésaïe, chapitre 7, verset 14, et Saint Matthieu, chapitre 1, verset 23. Le Fils, né de la Vierge Marie, est Emmanuel. C'est un des noms de Dieu de l'Ancien Testament appliqué au Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. La force de ce nom a été montrée par deux points d'accent. Placer cet accent sur le premier mot, Dieu avec nous, est de rappeler le cœur du Tout-Puissant, l'Éternel. Mais placer l'accent sur le dernier mot, Dieu avec nous, signifie son incarnation. Dieu le Fils, notez Saint Matthieu chapitre 16, versets 16 et 17. La confession de Christ comme le Fils de Dieu, du Dieu vivant, par l'apôtre Pierre, résulte de l'explication du Seigneur quand il a dit « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mon ami Pierre. » Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dieu le Père a révélé à l'apôtre Pierre, à Saint Pierre, que le Seigneur Jésus-Christ était son Fils éternel. Mon Seigneur est mon Dieu. Voilà encore une phrase qui est vraiment intéressante. Mon Seigneur est mon Dieu. Notez Saint Jean, chapitre 20, verset 28. Thomas, rappelez-vous, le disciple qui s'est tellement adressé à son Seigneur était le plus incrédule des 12. Ça ne veut pas dire qu'il était moins bon, mais non. Il était simplement un peu terre à terre. Il a refusé de croire dans la résurrection. Et quand Christ a apparu dans la chambre haute où Thomas était, eh bien immédiatement Thomas a vu qu'il était déclaré comme fils de Dieu avec puissance par la résurrection des morts. Notez Romains chapitre 1 verset 4. Dans l'exclamation d'adoration, Thomas a crié « Mon Seigneur et mon Dieu !» Il n'y avait plus de doute, aucun doute dans l'esprit de ce disciple en ce qui concerne la divinité de Christ. « Mon Seigneur et mon Dieu !» Ces attributs personnels, est-ce que les attributs de Jésus-Christ de Nazareth du Nouveau Testament sont les attributs personnels de Dieu? Eh bien oui, ils le sont. Nous avons, premièrement, l'omniprésence. La conversation entre Christ et Nathanaël indique l'omniprésence de Christ. Notez Saint Jean, chapitre 1, versets 47 à 51. La même chose prouve sa conversation avec l'apôtre Pierre sur la taxe du temple. Saint Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27. Par son omniprésence, le Seigneur Jésus-Christ, en accord avec sa promesse, était toujours avec les apôtres et va toujours être avec ceux qui continuent leur ministère infini. Christ a dit « Allez, allez donc, et enseignez tous les peuples, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Amen. Notez Saint Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Nous avons l'omniscience. L'apôtre Pierre sur la mer de Tibériade certainement a attribué l'omniscience à Christ quand il a dit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Notez Saint Jean, chapitre 21, verset 17. L'apôtre Jean certifie « Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Notez Saint Jean, chapitre 6, verset 64. Il est dit « Mais Jésus-Christ ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il, n'ayant pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Notez Saint Jean, chapitre 2, versets 24 et 25. L'omniscience était donc montrée par Christ en Gethsémani, Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Notez Saint Jean, chapitre 18, verset 4. Ces citations scripturaires, suffisamment, elles prouvent l'affirmation que Christ a démontré les attributs de Dieu quand il était ici sur la terre, les attributs de l'omniprésence et l'omniscience. Nous avons l'omnipotence. Il y a ici deux aspects exprimés par le mot omnipotence. Pouvoir et autorité. Ils sortent de l'affirmation de Christ quand il est apparu aux 11 après sa résurrection. Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Notez Saint Matthieu, chapitre 28, verset 18. L'omnipotence était évidente quand Christ s'est réveillé pendant la tempête et a dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent a cessé. Et il y eut un grand calme. Notez Saint Marc, chapitre 4, verset 39. Il y a certains actes omnipotents de notre Seigneur qui prouvent incontrovertiblement sa divinité. Premièrement, il a ressuscité un mort, Lazare, la veuve du fils de Nain et la fille de Jaïrus. L'Esprit de Dieu certifie que celui qui était né de la racine de David par la chair est déclaré être le Fils de Dieu avec le pouvoir par la résurrection des morts. Notez Romains, chapitre 1, verset 4. Deuxièmement, il a pardonné les péchés. Quand Jésus-Christ a dit au paralytique « Tes péchés te sont pardonnés », eh bien là, les ennemis du Seigneur ont demandé « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Dans cette examination des attributs personnels de la divinité en Christ, nous avons ressorti les démonstrations de ceux pendant le temps quand il était sur la terre, mais il y a les démonstrations d'avant la création de son omnipotence que nous devons considérer son acte créatif, car toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Notez Saint Jean, chapitre 1, verset 3. Car en lui ont été créées toutes les choses. Notez Colossiens, chapitre 1, verset 16. Nous avons son pouvoir entretenant. Toutes choses subsistent en lui. Notez Colossiens, chapitre 1, verset 17. Par Christ, toutes choses tiennent ensemble. Le cosmos est venu en existence par lui et continue à exister à travers lui. Avant d'abandonner cette examination des divins attributs personnels de Christ, il faut considérer un autre, son immutabilité. Nous avons donc son immutabilité. L'Ancien Testament raconte les revendications de Dieu relatives à son inchangeabilité. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Notez Malachie, chapitre 3, verset 6. La même qualité d'immutabilité est attribuée à Christ par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Premièrement, cet écrivain cite les paroles du psaume 102, versets 25 à 27, au Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point, jamais. Notez Hébreux, chapitre 1, verset 12. En second lieu, il déclare « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, éternellement. » Notez Hébreux, chapitre 13, verset 8. Nous allons donc terminer cette partie ici. Nous continuerons, Dieu voulant, demain. Et je voudrais simplement vous donner quelques paroles que j'ai reçues pour vous. Chers amis, ayez le désir de la vie éternelle et des grands biens promis à tous ceux qui combattent courageusement. Lorsque le désir de l'éternelle béatitude vous est donné d'en haut et que vous aspirez à sortir de la prison du corps pour contempler la lumière divine sans ombre et sans vicissitude, dilatez votre cœur et recevez avec amour cette sainte inspiration. Rendez grâce de toute votre âme à la bonté céleste qui vous prodigue ainsi ses faveurs, qui vous visite avec tendresse, vous presse et vous soulève puissamment de peur que votre poids ne vous incline vers la terre. Car rien de cela n'est le fruit de vos pensées ou de vos efforts, mais une grâce de Dieu qui a daigné jeter sur vous un regard, afin que, croissant dans la vertu et dans l'humilité, vous vous prépariez à de nouveaux combats et que tout votre cœur s'attache à Jésus-Christ avec la volonté ferme de le servir. Quelque ardent que soit le feu, la flamme cependant ne monte pas sans fumée. Elle ne monte pas sans fumée. Ainsi, quelqu'un, quoique embrassé du désir, embrasé du désir des choses célestes, eh bien, ne sont point néanmoins entièrement dégagés des affections et des tentations de la chair. Et c'est pourquoi ils n'ont pas en vue la seule gloire de Dieu dans ce qu'ils demandent avec tant d'insistance. Tel est souvent votre désir que vous croyez si vif et si pur, car rien n'est pur ni parfait de ce qui est mêlé d'intérêts propres. Demandez non ce qui vous est doux, non ce qui vous offre quelques avantages, mais ce qui honore et qui plaît au Seigneur, car si vous jugez selon la justice, vous devez docile à ses ordres, les préférer carrément à tous vos désirs et à tout ce qu'on peut désirer. Jésus-Christ connaît votre désir. Il a entendu vos gémissements. Vous voudriez jouir déjà de la liberté glorieuse des enfants de Dieu, déjà la demeure éternelle, la céleste patrie où la joie ne tarit jamais et ravit votre pensée. Mais l'heure n'est pas encore venue, vous êtes encore dans un autre temps, tant de guerres, tant de travail et tant d'épreuves. Vous désirez être rassasié du souverain bien, mais cela ne se peut maintenant. C'est Jésus-Christ qui est le bien suprême. Attendez-moi, dit le Seigneur, jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Il faut que vous soyez encore éprouvés sur la terre et exercés de bien des manières. De temps en temps, vous recevrez des consolations, mais jamais assez abondantes pour rassasier vos désirs. Ranimez donc votre force et votre courage pour accomplir et pour souffrir ce qui répugne à la nature. Il faut que vous vous revêtiez de l'homme nouveau. Il faut que vous vous changiez en un autre homme, une autre femme. Il faut que souvent vous fassiez ce que vous ne voulez pas et que vous renonciez à ce que vous voulez. Ce que les autres souhaitent réussira, mais 1000 obstacles s'opposeront à ce que vous souhaitez. On écoutera ce que disent les autres, mais ce que vous direz sera compté pour rien. Ils demanderont et ils obtiendront. Vous demanderez et on vous refusera. Chers amis, nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, terminer cette étude simplement par la prière. Prions. Seigneur, notre vie s'écoule, fugitive et rapide. Le jour naît et finit, les mois et les années recommencent et s'achèvent. Il semble que nous soyons emportés comme par un torrent dont les flots se précipitent avec d'autant plus de vitesse qu'ils approchent de l'abîme où ils seront engloutis. Qu'est-ce donc que notre vie ? Dieu Tout-Puissant, une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Aujourd'hui, nous sommes pleins de santé, nous sommes pleins de force, mais demain, la tombe recevra notre enveloppe terrestre immobile et glacée. Aujourd'hui, nous ne rêvons qu'espérance, projet de bonheur. Mais demain, nous verrons disparaître ces songes enivrants et l'avenir éternel et redoutable s'étendra enfin devant nous. Insensés donc ceux qui vivent pour cette terre seulement, ceux qui ne pensent pas chaque jour et sans cesse à la fin inévitable et prochaine de cette vie. Oui, ceux qui ne savent pas rattacher leur existence terrestre à l'éternité. Insensés donc ceux qui s'efforcent d'oublier que d'un instant à l'autre, leur âme peut leur être redemandée. Seigneur, que nous ne soyons pas au nombre de ces insensés, mais que nous sachions nous préparer à tout quitter quand tu nous appelleras et apparaître en ta présence. Sauveur de nos âmes, Jésus-Christ, divin Rédempteur, aie pitié de nous et reçois-nous dans ta miséricorde. Nous nous confions en toi, car nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre. Seigneur notre Dieu, ne rejette point notre prière, et que ta grâce nous fasse vivre éternellement pour te louer et pour te bénir. Chers amis, merci pour la patience que vous avez d'écouter ces études. Et je voudrais vous donner quelques chants qui sont de plus de 50 ans en arrière, donc il y a plus de 50 ans que je les avais enregistrés quand j'avais donc formé, construit, élaboré avec beaucoup de peine et de patience, on dira simplement fondé une mission sur cassette. C'était beaucoup plus simple en ce temps-là, parce que la cassette, vous pouviez l'arrêter n'importe quand, puis recommencer. Vous pouviez même revenir en arrière et corriger. Ce n'est pas le cas. Pour le CD, il faut demander à l'Esprit-Saint vraiment qu'il m'aide à le faire d'un seul coup, du début à la fin. ce qui n'est pas évident. Alors, ces chants sont un peu usés, c'est normal. Mais l'essentiel, que vous puissiez retenir le sens profond de ce qu'elle essaye, ces chants, de vous transmettre. À demain, donc, Dieu voulant, et je vous mets, Dieu voulant, si ça fonctionne, quelques chants. À bientôt, mes chers amis.
Someone slip and fell. Oh, that someone you may have long for every stream in your courage. Everything mal, oh mal, oh, oh yeah. Is bread to fall, oh my Jesus, oh my Lord. But deliver us from